Ok, on est arrivé à la parole du Khaver. Lorsqu'on arrive à la parole du Khaver, en fait, le livre du Kuzari commence véritablement. Maintenant, ça ne veut pas dire que le début était peu important. Hein. Le début est important, mais on peut tout résumer de ce qu'on a étudié, ce qui est important pour la suite de l'étude, c'est la chose suivante. Bien sûr, il nous a beaucoup apporté de connaissances par rapport à la chrétienté et par rapport à l'islam, il est clair. Mais par rapport à la définition de l'Agda, la définition du mot Emouna, de la notion de Emouna qu'on essaie de comprendre, alors ce qui était important pour nous, c'était les étapes. Quelles sont les étapes? Je rappelle, le roi des Khazars, toute l'histoire a commencé par un rêve. C'est-à-dire, le rêve est essentiel parce que c'est ça qui va le pousser dans sa recherche. Maintenant, d'où vient le rêve? Le rêve, contrairement à d'autres connaissances, il ne vient pas du Sehel. Il ne vient pas de l'intellect. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va beaucoup écrire sur le tableau, c'est pour ça qu'on a tout installé là. Il ne vient pas du Sehel. On a ce qui s'appelle le Sehel, c'est l'intellect. C'est-à-dire, l'intellect. L'intellect de la personne, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir connaître les choses extérieures, les phénomènes extérieurs, comprendre les connaissances de ce monde, découvrir la sagesse qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire, c'est un des kélim, c'est un des moyens avec lesquels nous pouvons découvrir la chorma. La chorma, ça va être la sagesse. C'est-à-dire que la chorma, on va pouvoir acquérir la chorma grâce à ce que l'intellect va réfléchir et va pouvoir faire pour qu'on comprenne quelle est la sagesse qui se cache dans les choses. Il y a fait le Davka, précisément, Rabbi Yehuda Lévi a choisi de commencer le Kuzari pas par une recherche philosophique. C'est-à-dire, c'est pas le roi des Khazars qui se pose des questions philosophiques et qui décide d'aller voir le philosophe. Et là, il reçoit le chalom. Le chalom, le rêve, nos sages nous enseignent dans la Mishnah la Gemara que le chalom égale 1/60 de la mita, de la mort. 1/60 de la névoie, de la prophétie. C'est-à-dire, le rêve représente, dans le rêve que nous avons, il y a 1/60 de prophétie. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'on comprend que Davka, Rabbi Yehuda Lévi, il voulait commencer le livre du Kuzari pour dire qu'il y a un appel de l'intérieur. Le rêve, ça ne vient pas de moi vers quelque chose. Et là, c'est la chose qui vient vers moi. Et ça, c'est très important parce que ça change beaucoup par rapport à ce que les autres religions vont expliquer. On y va. Ce n'est pas de l'homme qui va vers la chose, vers la connaissance, comme par exemple un scientifique. Il va chercher, il est là. Il va essayer de comprendre le phénomène qui est en face de lui. Et lui, il va donner des significations. Il va essayer de donner des explications à ce qu'il a fait. Tout ça, c'est l'homme qui va vers lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ça vient, le halom, c'est complètement différent. Comment vient le halom? C'est le halom qui vient vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui vient vers le halom. Donc, si on parle d'Avka de spéculation, ce n'est pas une spéculation humaine vers la chose, c'est la chose qui vient vers lui. Et comme ça, le Kuzari a commencé, par le halom. Poussé par ce halom, par ce rêve-là, il est allé voir le philosophe. Pourquoi? Parce que le philosophe, c'est lui le premier qui peut parler du sehel, qui est conscient de la richesse et de la grandeur de l'intellect humain. Et donc, il dit, s'il y a une solution, c'est chez les philosophes. C'est comme si aujourd'hui, on dit, s'il y a une solution à trouver, c'est chez les chercheurs, c'est chez les grands professeurs. Pourquoi? Parce que eux, ils ont développé une des forces les plus grandes qui existent dans l'humain, qui s'appelle l'intellect. Donc, il va commencer par le philosophe, parce que c'est une des forces les plus grandes chez l'homme, le sehel. Après avoir été déçu philosophe, pourquoi? Parce qu'il va avoir une contradiction interne. Ce que le philosophe dit, il a vécu un rêve. Alors que d'après le philosophe, rien ne s'intéresse à l'homme. Il n'y a pas un message divin. Le divin, même si Dieu existe, même si on dit que Dieu existe après les philosophes, il est totalement détaché de l'homme et du monde et il n'envoie pas des messages, il ne s'intéresse pas à l'homme. Or, le roi des Khazars dit, mais j'ai vécu une chose différente. Dafka, j'ai vécu une relation avec le divin. Et on ne peut pas me l'enlever, ça. Même si c'est incompréhensible au niveau du Sechel, tu es obligé, toi, en tant que philosophe, de m'expliquer ce que j'ai vécu. Et dans ce rêve, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, Retzonra, ta volonté, elle est bonne, mais ma Secha est un Retzouim, mais tes actes, ils sont mauvais. Or, d'après toi, le philosophe, il n'y a aucune valeur dans les actes. Et Dieu ne cherche pas ton intention parce qu'il ne s'intéresse pas à ton intention. Alors, il arrive à comprendre, à ce schlave-là, à cette étape-là, que lorsqu'il a rencontré le philosophe, que le Sechel ne va pas être une possibilité. C'est-à-dire que le Sechel n'est pas une solution. Ce n'est pas avec le Sechel que je peux expliquer ma vie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Il est vrai que quand tu vas te retrouver devant un grand professeur, un grand, je sais moi, un grand savant, un prix Nobel de physique ou de mathématiques, c'est pas, mais vous avez compris, devant un grand scientifique, il y a énormément de sujets qui sont très importants pour ma vie. Et au niveau du cerveau, de l'intellect, on sera incapable de nous expliquer. Comme par exemple, quel est le but de ma vie? Quel est le but de ma vie? C'est une question très très importante. On va dire, chacun peut choisir son but, il n'y a pas vraiment un but fixé, on est là par hasard. Ça, c'est ce que le Sechel va répondre. Et le roi des Khazars dit, non, je ne peux pas répondre une chose comme ça, qui, moi, je veux un sens à mes actes. Et de l'intérieur, le rêve, de l'intérieur, je ressens profondément, et j'ai reçu un message divin, qu'il fallait que je corrige mes actes. Alors, il a décidé de se tourner vers les hommes, plus les savants, vers les hommes qui, eux, parlent de son sujet. On sait que le rêve vient de l'inconscient collectif, mais en appelant le rêve, si le canal est ouvert. Attendez, j'ai besoin de pouvoir lire la question. On a une question dans le truc. Si le rêve est ouvert, il va arriver comme un don. Ce n'est pas le secret, le secret en effet, mais on peut le travailler comme si de recevoir le message de l'infini. Ken ! Mais ça, pour l'instant, il se pose exactement la question, est-ce que qui m'envoyait ça ? D'où ça vient, ça ? Est-ce qu'il y a une force surhumaine, un créateur qui s'intéresse à moi ? Le philosophe, il lui dit pas. Ensuite, les religions, ils vont lui dire que oui. Mais que ça soit la chrétienté, qui vont dire que ce même Dieu créateur est devenu un homme, ou que ce soit l'islam, Nahon, il parle de Dieu. Nahon, déjà, il commence à parler de Dieu, qui s'est dévoilé aux hommes, qui donne des lois, il y a des actes vrais. Donc, le Kuzari, il commence à dire, non, il y a quelque chose de qui correspond à ce que je cherche. Mais un gros problème, c'est qu'il y a un manque de Sechel. C'est qu'il n'y a plus de Sechel. C'est-à-dire, les religions, il n'y a plus de Sechel. Si tu cherches un petit peu, tu dis, c'est des théories, ça. Qui me dit que c'est le Emet? Qui me dit que j'arrive à la vérité?
Ah bon? Oui. Oui, mais avec le Sechel, ça veut dire que moi, le prix Nobel me parle de physique, et avec mon Sechel à moi, je ne comprendrai pas ce qu'il voudra, je ne sais pas si c'est la vérité. C'est-à-dire, je lui ferai confiance, alors que c'est Sechel. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, de faire confiance, ce n'est pas Sechel, mais tu feras confiance à une personne qui parle au nom du Sechel. Et tu diras, en effet, cette personne a du Sechel que je n'ai pas, et je lui donne ma confiance. C'est exactement ce qui va se passer, là, allez, nous, lorsqu'on va chez le médecin. On n'a pas de Sechel, parce qu'on n'a pas appris, on lui fait confiance, on prend un deuxième avis, et une personne, elle peut faire une opération et mettre sa vie dans les mains de deux Sechel. Mais ce n'est pas Sechel de sa confiance que tu vas donner, c'est autre chose. C'est ta prise de décision que d'après les données, je fais confiance aux personnes qui ont le Sechel parce que je sais qu'on a besoin du Sechel pour m'opérer. Mais qui dit? Est-ce que tu sais? T'as vérifié? Est-ce que tu sais à 1000%? Non, tu fais confiance. Tu fais confiance. Oui.
Je pense qu'il y a aussi une autre dimension ici. Quand quelqu'un va chercher un avis d'un chacham, ça a besoin de résonner en lui son propre sechel. C'est un échange entre de sechel à sechel. Si ce sage vous dit des choses qui n'ont rien à faire avec la manière dont vous voyez les choses rationnellement, vous n'allez pas l'accepter.
Ok. C'est...
Alors, en fait, il y a une espèce de projection qui se passe là.
Mais, c'est bien. Mais ça, on peut discuter. Il y a ton sechel, il y a mon sechel. Viens, le Kuzari. Maintenant, vous comprenez un petit peu le truc bizarre là. Je vous ai dit, le philosophe, il a le sechel. Il fait « Ah, mais ça contredit ce que j'ai vécu. » Il va chez des gens qui parlent de la religion, de Dieu, des actes. Il dit « Oui, vous dites des choses qui contredisent le sechel. » Et là, on a une fameuse question. Est-ce que la Emouna, elle est en rapport avec le sechel ou elle n'a pas en rapport avec le sechel? Les chrétiens ont décidé. Alors, regardez qu'est-ce qu'ils ont décidé. Le mot important, bien sûr, du livre. Attendez, peut-être j'écris en noir, c'est mieux. Est-ce qu'il y a des personnes qui lisent pas les cursives? C'est beaucoup plus difficile pour moi d'écrire.
Non, c'est bon.
Ben, c'est bien.
Moi, je lis pas, mais c'est pas grave.
Emouna, c'est bien. Ça, c'est le mot qu'on essaye de comprendre. Il cherche, il a une recherche au niveau de la Emouna. La grande question dans les religions, c'est est-ce que les Emouna, ça va avec le Sechel ou pas? Est-ce qu'il y a un lien?
Alors, par contre, je me demande de traduire Sechel.
Sechel, c'est l'intellect. Sechel, c'est un mot très important qui veut dire l'intellect, la capacité de comprendre. Ça a l'air traduit pour l'instant, l'intellect. Il va avoir le monde émotif, c'est le regesh, l'émotion, et il va voir le sechel, le monde de l'intellect.
C'est-à-dire ouais,
c'est quoi la différence entre l'intellect et l'intellect agent? Parce que pour moi, l'intellect, le sechel, c'est au-dessus de l'intellect.
Non, alors, il y a l'intellect agent, ça c'est au-dessus, c'est au-delà de l'homme, Nagit. C'est ce que l'homme doit atteindre. Cette capacité, cette faculté que l'homme a de réfléchir, induction, déduction, ça vient du fait qu'il a une faculté d'intellect. Jusque-là, c'est un truc très simple. Maintenant, les religions se sont posées la question, est-ce que la Emouna et le Sechel, ça va ensemble ou pas? Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils peuvent avoir une vie commune? Ok, ça marche? La chrétienté a répondu non. La chrétienté a répondu non. Pourquoi elle a répondu non? Parce que si c'est compris par l'intellect, alors ce n'est plus de la Emouna. Et là, pourquoi? Parce que justement, c'est quand s'arrête la raison, vont-ils dire, que commence la Emouna. Parce que c'est facile, si tout est prouvé, tout est clair, tout est truc, alors ça veut dire que ce n'est pas de la Emouna. La Emouna, c'est justement une confiance que tu vas avoir, un éveil que tu vas avoir qui dépasse le niveau humain. Sechel, c'est humain, Emouna, c'est au-delà. Donc, ça ne nous dérange pas du tout de dire que Dieu est devenu un homme, même si au niveau du Sechel, c'est incompréhensible. Justement, commence la Emouna. Mais le Kuzari, lui-même, il dit, une Emouna, écoutez bien ça, qui va à l'encontre d'une force de ma vie, ce n'est pas possible. Retenez bien cette phrase-là.
Excusez-moi.
Une Emouna qui va à l'encontre d'une des forces de ma vie, qui est essentielle, le Sechel. Donc, une Emouna qui va contredire mon Sechel. Alors ça, ce n'est pas possible. Donc, il va rejeter la chrétienté. Il va rejeter aussi l'islam pour la même chose. De dire que c'est écrit, parce que c'est écrit en arabe, il faut se mettre au courant du Coran, etc. Et parce que tu ne connais pas, là, c'est aussi incompréhensible. Incompréhensible.
Excusez-moi. Est-ce que c'est
un mot?
Pardon. Vous voulez parler?
Attendez, Félicie, vous voulez parler, ensuite je retourne vers vous, madame Garibaldi.
Vous avez mis le mot Emouna. Emet.
Non, j'ai dit Emouna. Deux secondes.
Il y avait Emet sur les tableaux.
Emet. Ok.
Emet. Alors, où est-ce qu'on peut se placer là maintenant entre le victoire entre le Sechel et le Emouna? Il faut Emet.
Alors, on y arrive. Ça, c'est notre but d'arriver. Je vais expliquer ça doucement. Ça, c'est notre but. On va expliquer ça. Ken, Madame Garibaldi.
Oui, c'était juste pour dire que pour moi, c'est comme si les chrétiens disaient qu'il n'y a que la part féminine qui existe dans ce monde, alors que dans le judaïsme, il y a justement ce lien entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire le sérel et aussi l'intuition.
C'est bien. Maintenant, regardez. On arrive donc, le roi des Khazars est découragé. Il dit, c'est pas du sérel seulement. Ce n'est pas de comment les gens parlent de Dieu, on va chercher la source. C'est quoi la source? Parce que ça soit le musulman ou que ça soit le chrétien, ils se sont tous référés à Israël. C'est-à-dire, ils sont tous référés à Israël comme étant le peuple. Comme dira Pascal, que si Dieu parle aux hommes, alors il faut demander aux enfants d'Israël. Parce qu'eux sont les témoins qu'il a parlé à eux. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qui est fou? Si tu vraiment cherches quelque chose, tu ne peux pas te contenter qu'une personne t'a dit une chose, que deux personnes t'ont dit une chose. Il faut toute une histoire. La culture chinoise existe, ce n'est pas parce qu'une personne a inventé la culture chinoise. Ça existe parce que ça fait des milliers d'années, où il y a un peuple en Chine qui s'est développé et qui a développé une culture. Ce n'est pas une personne qui va inventer la culture. Ça va? Donc, il décide de poser la question à Israël. Quand il pose la question à Israël, il pose la question à un Yéhoudi. On a dit que c'est péjoratif. Quand il utilise le mot juif, c'est péjoratif. Pourquoi? Parce qu'ils sont misérables. Et il semblerait qu'ils ont perdu totalement, va-t-il dire, totalement les connaissances. Parce qu'une personne misérable, il n'a pas la capacité d'étudier et le temps d'étudier. C'est-à-dire, il essaye de survivre. Et donc, il a perdu la connaissance. Malgré tout, il essaye de se rappeler de qui est l'âme Israël. Et là, le Khaver répond. Anachnu ma'aminim. Et là, je vous montre le texte pour que vous soyez d'accord avec moi. Bon, ça va être un peu dur, hein. Je l'explique tout de suite. Mais Bezrat Hashem, on va y arriver. Attendez, zut. Vous voyez là ou pas du tout?
Pardon, c'est qui le Khaver? C'est le Kuzari?
On voit votre main.
Tu vois là maintenant? Attends, j'ai une idée, j'ai un truc. Le Khaver, ça veut dire l'ami. L'ami, c'est le rabbin. Et donc maintenant, tout le livre, c'est un discours entre le rabbin et le roi des Khazars. Le Khaver, c'est le rabbin, et le roi des Khazars, c'est le roi des Khazars.
On voit très bien.
On voit très bien. Alors regarde qu'est-ce qu'il a dit. Amarlo et Khaver. Le Khaver lui a dit. Anachnu ma'aminim.
Ken belokei Abraham.
Bien fait. D'abord, le premier mot, anachnu. Déjà, il t'ouvre les yeux, anachnu. C'est pas moi qui viens avec une idée, je crois. Ce que dira le philosophe, que ce que dira le chrétien, que ce que dira, c'est lui qui croit que le Khaver, le Rama, c'est-à-dire le Ham Israël, il dit pas ani, il dit anachnu. Nous, ce n'est pas quelque chose d'individuel. On a une émouna au niveau du collectif. Ma'aminim. Alors, on y va. Ma'aminim. On s'est arrêté à ce mot. On va faire deux mots aujourd'hui, peut-être. Anachnu ma'aminim. Le gros problème du mot, du verbe ma'amin, c'est pour ça que tu veux comprendre l'hébreu, tu veux comprendre la Torah, il faut comprendre l'hivrite. Si tu ne comprends pas l'hivrite, c'est la chaîne à Kodesh, on a du mal. Ma'amin, ok, ma'amin, ok. Les voyelles ne sont pas bonnes, mais le mot vous pouvez lire, c'est ma'amin, ça veut dire croyant. C'est-à-dire, ma'amin vient du verbe le'ha'amin. Ok. Le verbe, l'infinitif, c'est le'ha'amin. Le, c'est tout, c'est pour ha'amin. Et on a l'habitude de traduire les amines par croire. Anima amine, lecha, je te crois. De là découle le mot emuna, etc., etc. Les amines, c'est croire. Anima amine, beribono sholam, je crois dans le maître du monde. Maintenant, on a un gros problème. C'est quoi le gros problème? Regardez bien. Si les amines, dans la rue en Israël, on pense que le mot lecha amine veut dire croire. Maintenant, tout le but du cours, c'est de prouver ça, que ça ne veut pas dire croire, mais pas du tout. Et n'y croyez pas à ça. L'ami ne veut pas dire croire. Et je vais l'expliquer d'abord au niveau de la forme du verbe. Vous savez qu'en ivrite, il y a sept formes principales de verbe. Il y a sept formes principales de verbe. Et je vous donne un verbe que vous connaissez, que tout le monde connaît, ou même s'il ne connaissait pas, on peut l'apprendre, c'est très simple. Il y a le verbe « le'echol ». L'échol, ça veut dire manger. Ani, ochel, cela veut dire je mange. Ochel, je mange. Ani, ochel. Ça s'appelle la première forme du verbe, c'est le pa'al, ou ça s'appelle aussi le kal. parce que c'est un verbe, c'est la forme facile, l'érol oré. De ce verbe-là, il y a la forme if-il. C'est quoi la forme if-il? C'est la forme où tu rajoutes les un ré, les ha achil. Les ha achil. Qu'est-ce que ça veut dire les ha achil? Les ha achil, ça veut dire faire manger.
Donner à
manger. Ou en d'autres termes, nourrir.
Nourrir.
Mais je vais l'écrire comme faire manger. Faire manger. Ça s'appelle nourrir. Nourrir quelqu'un. Ça veut dire nourrir.
Tenir un rêve.
Pardon?
L'achil, et c'est contenir aussi?
C'est non, comme... l'achil.
Ah, oh, c'est l'achil. Ok, ok.
C'est... Mais non, regardez bien. L'achil, c'est sans aleph. L'achil, contenir. Ah. Mais non, l'achil, c'est faire manger, nourrir. Maintenant, ça veut dire quoi? Que si tu as une forme en hébreu, hein, en hébrite, l'éha, comme ici, l'é ha, comme là, c'est une forme passive ou active? C'est une forme active. C'est ça le truc. Donc, si c'est une forme active, faire quelque chose, faire manger, les hashbit, faire chômer, les akrin, faire projeter, les hardim, faire dormir. C'est-à-dire, tu fais une action. C'est la troisième forme des verbes, c'est le if-il. Donc, forcément, les amines ne peut pas dire je crois. Parce que je crois, je ne fais aucune action. C'est passif. C'est je crois. Je crois ou je ne crois pas. Je crois ou je ne crois pas. Donc, les amines, par la forme du verbe, c'est un verbe actif. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas pour l'instant. Mais c'est quelque chose de actif. Est-ce que vous le sentez? Jusque ce que j'ai expliqué. Razak. Donc, il faut penser en hébreu que quand je dis « ani ma'amin », c'est comme « ani ma'achil ».« Ma'achil », c'est faire manger. « Ma'fil », c'est faire tourner. « Le'afil », voilà, mettre en marche. L'exemple de ce verbe, de cette forme de verbe, c'est « ifil », c'est « le'afil », mettre en marche. C'est-à-dire, c'est faire quelque chose. Alors, ok, proposition. Je me donne les moyens de croire. Mais pourquoi? Pourquoi prendre le mot croire parce qu'on nous a donné ça et dire essayer de tourner tac 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 pour essayer? Ben, très simplement, pour comprendre l'hébreu, il faut savoir d'où vient la racine. Et le problème, dira le Rav Kook, il va écrire le Rav Kook, il va écrire plein de livres, mais son Kodesh Kodashim, le livre le plus saint du Rav Kook, c'est Oroth. Oroth, le premier chapitre, il parle de la terre d'Israël. Ensuite, il parle des guerres. Ensuite, il parle de la chrétienté et d'Israël. Ah, qu'est-ce que tu as besoin d'écrire la chrétienté? Là, le problème, en deux mots, hein, il dit, si tu veux sortir l'âme Israël de la galoute, il faut libérer les notions. Or, toutes nos notions, elles ont été, particulièrement dans le monde ashkénaz, elles ont été entachées par la pensée chrétienne. Parce que les mots qu'on utilise, c'est dans une langue qui a été chrétienne. Et quand on parle de Dieu en français, alors c'est entaché par toute la pensée chrétienne. Donc, il faut sortir, repenser l'hébreu avec l'hébreu, repenser les notions de Torah avec la Torah pour pouvoir essayer de commencer à parler des mots. Tu ne peux pas parler de Géoula si tu ne sais pas d'où vient ce mot Géoula comme la pensée d'Israël. Et donc, le premier mot Emouna, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire libérer le mot Emouna, nettoyer le mot Emouna de toutes les compréhensions chrétiennes dont il a été taché. C'est un travail de purification. On le met dans le mikvé. Maintenant, bon, Hachem, quand on est en Eretz Israël, les enfants, ils comprennent ça tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est leur langue. Nous, on est obligés de réfléchir pour retrouver les sources. Alors, je vous donne ce que Moreno Vera Benoît, Rabbi Yoshua Zuckerman, nous enseigne. Il nous enseigne la chose suivante. Regardez-le. Dans tout mot, il faut retrouver la racine. Jusque-là, il n'y a pas de tridouche. Le mot qu'on recherche, c'est le mot Emouna. Que veut dire le mot Emouna? Maintenant, le mot Emouna, autre part, je dis déjà à la fin, ce n'est pas croire. Quelle est la racine du mot Emouna? En hébreu, les vraies racines, c'est deux lettres. Tout le monde vous dira trois lettres. Mais c'est deux lettres. Deux lettres. Parce que c'est avec partir de deux que tu peux créer. Je me rappelle, je ne sais pas si je vous avais dit ça, quand j'étais enfant, j'avais écrit une lettre, quoi une lettre, une phrase, la première phrase en hébreu, « Ani oler les bêtes à sefer »,« Je marche à l'école ». Et j'avais marqué « Ani oler »,« Je marche », »,« Les », »,« Vers », et plus loin, « Bêtes à sefer », »,« L'école ». Et le professeur qui m'enseignait m'a dit, en hébreu, c'est pas comme en français où tu peux mettre « A » tout seul. En français, tu as une lettre, « A ». On aurait pu penser qu'en hébreu, j'aurais pu avoir une lettre, « Les », »,« Vers », et « École ». En hébreu, il n'y a pas d'un mot d'une lettre. Ça n'existe pas, le mot d'une lettre. Il faut deux lettres. Il faut la liaison. Il faut le ribourg entre deux lettres pour créer. Ça, c'est le monde de la création, c'est le monde du bête. Maintenant, regardez, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on connaissait le secret du lien de deux lettres, on pourrait connaître toutes les formes de trois lettres. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, la majorité des racines en hébreu sont de trois lettres. Alors venez, on va passer par le truc simple. Après, on montrera aussi qu'il y a deux lettres. Quel est le shoresh? Quelle est la racine du mot emuna? Le mot emuna, sa racine, elle est simple. C'est Aleph, Mem, Nun.
C'est Mem, Nun. Okay.
Aleph, Mem, Nun.
Mem, Nun.
Pardon?
Pour la racine?
La racine, c'est les trois lettres. Aleph, Mem, Nun.
D'accord.
C'est-à-dire? Maintenant, regardez bien. Lorsqu'on a le Aleph, le Mem, le Nun, il faut être capable de trouver, ça je vous demanderai de faire ça à tous les exercices quand vous essayez de comprendre une notion comme Torah, comme Mitzvah, comme Geoula, comme Galout, comme Eretz Israël, comme toutes les notions de base qu'on connaît dans la Torah, il faut savoir quelle est la racine, d'où elle vient. Alors en hébreu, quand on a une racine, c'est pas comme en français. Quand on a une racine, on a ici trois éléments, c'est comme si je vous dis H2O. H2O ou OH2, c'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'on te donne le nombre de molécules d'oxygène, le nombre de molécules d'hydrogène, et tu peux connaître l'élément.
Ça fait Khaira.
Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on a ici. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a Aleph Mem Nun. Tous les mots, écoutez bien ce que je vous dis, tous les mots qui ont cette même racine, elles ont un rapport. Tu ne peux pas dire qu'ils ont par hasard les mêmes lettres. Ça n'existe pas, le hasard. Il faudra en hébreu tout le temps expliquer comment se fait-il que ce mot a les mêmes lettres que ce mot. Il faut comprendre la liaison qu'il y a entre les deux. C'est vrai? Maintenant, on fait un travail. Aleph Mem Nun, quels sont les mots que vous connaissez qui ont comme racine Aleph Mem Nun? Je commence par le plus facile. Amen. Ok. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shehakol Nihya Bidvaro. Amen. Super. Aleph Mem Nun.
Imun.
Imun. Excellent.
Imun. Le'amin.
Le'amin, bien sûr. Imun, ça veut dire quoi? C'est l'entraînement. Marque-le, je ne sais pas la place sur le tableau. Imun, c'est du coaching. Imun, c'est le coaching.
Coaching, yeah.
Yeah. Imun. On a un autre
Uman.
Mot.
Oumanout.
Ouman veut dire artisan. Faites très attention, rien à voir avec Rabbi Nachman de Meouman. Ouman veut dire artisan. Maintenant, une chose qu'on verra.
Artisan.
Elle veut qu'on s'occupe d'elle, elle s'ennuie, elle veut qu'on s'occupe d'elle.
S'il vous plaît, fermez le micro. Merci beaucoup.
On va connaître les secrets, c'est dommage. Les secrets doivent rester cachés. Oman, c'est quoi Oman? Oman, tu dis, c'est un artiste.
Oui.
Oman, c'est un artiste. Ouman, c'est un artisan. Oman, c'est un artiste. Faites attention, ça s'écrit avec deux kamat, mais ça se prononce O. Un autre mot, bien sûr, le mot Emouna. C'est bien? Le mot Emouna. C'est bien? Un mot qu'on n'a pas dit, que vous avez dit oralement, c'est Omanout. Omanout, c'est l'art. C'est l'art. Omanout, c'est l'art. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est bien? un mot très important, et avec ça on finit, c'est Ne'eman, fidèle. Ça marche? Bon, il y a d'autres mots, mais on ne va pas tous les faire. Bien sûr, le verbe le'amin, etc. Donc il faut, et ça vous pouvez, omanout. Oui, on l'a marqué ici. Maintenant, vous pouvez faire un travail à la maison et demander autour de vous, mais quel rapport entre amen, imun, uman, oman, emuna, omanout, ne'eman? C'est un travail à faire, il faut le faire. Mais on ne va pas le faire dans ce... maintenant, si ça nous prend trop de temps, je vais à l'essentiel. Si emuna, regardez maintenant le chemin. Emuna, on veut savoir ce que c'est. Le shoresh, on l'a, c'est alef memnoun. Et il y a un mot qu'on connaît, c'est amen. Ça marche? Je passe de emuna, alef memnoun. Alef memnoun, on a le mot amen. Maintenant, être atay animaskirayom. Mais faute, je rappelle aujourd'hui, ou la maratsout, l'ignorance. C'est seulement à l'âge de 21 ans, quand j'ai rencontré Mori Verabi, ou 20 ans et demi, quand j'ai rencontré Mori Verabi et Rabbi Yoshua Zuckerman, que j'ai enfin su que voulait dire le mot Amen. Et j'ai dit, regarde comment on a pu grandir. De toute notre vie, on dit Amen, 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 Amen. Et je ne savais pas ce que voulait dire ce mot. Même les chrétiens, ils ne savent pas. Maintenant, regardez bien. Je peux effacer là? Quelqu'un a copié? Mais c'est... Maintenant, regardez bien. Je ne veux pas de réponse. Ok ? Je vais vous dire tout de suite. En général, quand tu demandes à des gens religieux qui ont étudié la Torah, que veut dire le mot Amen ? Ils disent El, Mele, Ne'eman. Ok, c'est ce que la Gemara rappelle. Ok, c'est dit dans nos sages. C'est les. Rachet tes votes, ça commence par les lettres. Aleph, Mem, Nun. El, Melech, Nun. Dieu, roi, Ne'eman, fidèle. Très bien. Mais ça, c'est l'allusion, vous êtes d'accord? C'est un remez. Puisqu'on prend les premières lettres, on en fait trois mots. C'est une allusion. Mais quel est le sens du mot Amen? Aujourd'hui, tout le monde connaît, mais un peu mal, mais c'est déjà mieux qu'avant, grâce à le Rav Mazouz. Le Rav Mazouz, le Rav Meir Mazoul, il a sorti son livre Ish Matziach et il a écrit « Que veut dire Amen ?» Maintenant, je suis d'accord. Par rapport à ce que je dis ou que Amen veut dire « Je suis d'accord ?» Alors attention, Amen, je vais vous aider à trouver la signification tout seul. C'est-à-dire, mais pour ça, il faut revenir à un autre mot. Alors on y va. Il y a un mot très simple qui veut dire fils. Fils, tout le monde connaît. C'est le mot ben. Le mot ben qui veut dire fils. Ça a l'air ? Il y a un autre mot aussi que tout le monde connaît. Le mot qui veut dire fille. Fille, c'est bat. Eh bien, mais on a l'impression que ces deux mots sont complètement différents. C'est vrai, ça commence par un bet et ça finit par un noun. Là, ça commence par un bête et ça finit par un taf. Donc, on a l'impression que c'est deux mots différents, même s'il y a le bête qui est de départ, qui est la même chose. Maintenant, lorsqu'on met au pluriel, Ribono Shel Olam, on met au pluriel le mot ben, à la place de fils, on met des fils. Là, ça devient banim. Des garçons, des fils. Mais quand on met fille au pluriel, quand on a beaucoup de filles, Baruch Hashem, ça donne le mot ba. Pas batot.
Banot.
Elle a banot. Banot. Elle a une question grammaticale très simple qui se pose. D'où vient le noun? Il n'y a pas de noun ici. Comment se fait-il qu'ici on a un noun alors qu'ici on n'a pas de noun? Grande question. Alors la réponse, elle est très simple. Au niveau grammatical, lorsqu'on parle en hébreu, il y a des lettres qui vont disparaître parce qu'on a une difficulté à le prononcer. Et le noun, il y a une règle qui dit noun nofelet. Le noun tombe dans certains mots. Et je vous donne un exemple très simple. Ici, dans notre cas, bat, c'est fille. Mais en fait, le vrai mot, c'est bent. Et étant donné que le mot bent était difficile à prononcer, le noun est tombé et on a prononcé bat. Mais en fait, il y a un noun caché. Waouh. Mais d'où tu sais ça? C'est simple, parce qu'au pluriel, il apparaît Banot. Mais d'où tu sais ça? Mais de l'arabe. Maintenant, je veux demander à toutes les grand-mères qui sont ici parmi vous. Comment tu dis ma fille, chérie? Ah, il n'y a que des Ashkenaz dans cette salle?
Binti.
C'était prévu.
Binti.
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 Binti, mais c'est Binti. En arabe, ils ont gardé ça. Bent, fi, i, à moi, binti. Vous avez compris?
Oui.
Chazak. Donc, on a ce noun caché, ce truc. Quel rapport avec la Emouna? Ben avec la Emouna, hein, c'est extraordinaire. Parce que regardez qu'est-ce qui se passe. Ce qui veut dire, je remets le noun caché là, qu'en fait, le mot, c'est ben. Le mot, c'est ben. Comment tu fais le féminin de Ben? Qu'est-ce que tu rajoutes? Un
nun
taf.
Un taf.
Non, un taf. Mais,
un nun tête. Un nun taf.
Non, le nun, il est déjà, puisque tu as le bête nun. Tu rajoutes taf. Un taf pour la forme féminine. D'accord? Mm-hmm. Razak. Alors, on y va. Maintenant, vous avez ça dans la tête? Atek, adbek. Copier et on va coller cette notion dans un autre mot. Il y a un mot, amen. C'est-à-dire, vous pouvez me le mettre au féminin?
Amita.
Emet.
Amen.
On va dire Emet, la vérité, donc.
Amen. Et étant donné que c'est difficile à prononcer, on annule le noun et qu'est-ce qui reste?
Emet. Emet.
Qui veut dire vérité. Alors ça, ce qui veut dire que le mot emet, c'est au féminin et le mot amen, c'est vérité, mais c'est au masculin. Alors là, tu dirais, bon, je suis l'olam, mais non, je comprends. Quand tu dis, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boré Peri Haet, celui qui a créé le fruit de l'arbre, quand nous, on dit Amen, ça veut dire, c'est vrai, Emet. Ok, maintenant, il y a une personne qui m'a demandé, ok, alors si c'est ça, pourquoi on ne dit pas Emet? Alors,
dis Emet. Parce qu'on veut dire en féminin.
Ah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On dit le masculin et on dit le féminin. Quand est-ce qu'on dit le masculin? Quand est-ce qu'on dit le féminin? Alors, c'est très spécial.
Le passif et le
actif. Quand on dit amen.
On rajoute le féminin au masculin avec le noun.
Noun, c'est masculin. C'est comme ben.
Non, le noun, c'est plutôt une lettre féminine, le noun.
Le noun, dans notre cas, ce n'est pas question féminin ou masculin. C'est que c'est la deuxième lettre. Tandis que le tav, ça va être la forme féminine.
D'accord, mais on rajoute en fait de compte, non? C'est pas ça?
Non. Et le bet nun, c'est la racine. Et tu rajoutes le taf si c'est féminin et tu mets rien si c'est masculin. Maintenant, amen. Et là, c'est là où le Ish Batzliach, il a fait une révolution. Regardez dans la Amida. Il y a marqué Bouchata Hashem, Bonei Yerushalayim. Hashem, toi, tu es source de bénédiction, construis Jérusalem. Bonnet et Hoshem, qui construit Jérusalem. Et là, on dit Amen. Qu'est-ce que ça veut dire Amen? Deux choses. Il dit de penser Emet, lui marque Amen égale, Emet, c'est vérité, Vechen Yehi Ratson, et ainsi soit sa volonté. Ben, c'est ça, Amen. C'est non seulement vrai, mais une vérité qui doit se réaliser. Ça, c'est Zaha. Le masculin étant toujours le côté d'action, de réalisation. Ça ne veut pas dire que la femme est moins dans la réalisation. La femme, c'est elle qui va donner la vie, etc. Donc, on ne parle pas femme et homme. On parle côté masculin, côté féminin. C'est-à-dire que quand on va dire Amen, c'est vrai, mais c'est une vérité qu'il faut réaliser. C'est vrai qu'Hachem construit Yerushalayim, mais il faut que ça se réalise. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'Hachem, que Dieu emmène la Géoula, la libération, mais il faut que ça se réalise. C'est vrai que Hachem nous donne le da'at, mais il faut que ça se réalise. Donc, quand on dit Amen, c'est pas seulement accepter, émettre une vérité, mais réaliser cette vérité. Vous entendez ? Voilà, on a énormément avancé. Énormément avancé. Pourquoi ? Parce que le mot émouna, si, c'est pas si, comme ça vient du même shoresh que amen, il faut que ça soit vérité à 1000%. Vous l'avez ? On y va. On revient maintenant de l'arrière. On a dit émouna, c'est le shoresh aleph mem nun. Aleph mem nun, ça a donné le mot amen. Maintenant, je reviens en arrière. Amen, c'est vérité. Donc, aleph mem nun, c'est quelque chose qui relève de la vérité. Émouna, ben forcément, ça doit relever de la vérité. C'est de la vérité. Mais si c'est vérité, émouna, alors il faut trouver en quoi la émouna, elle est à 1000% vérité. Et donc, ça ne peut pas être « je pense que, je crois que ». C'est du 1000% vrai. C'est une certitude. D'où là où il n'y aura pas de certitude, il n'y aura pas de émouna. Parce que c'est quelque chose d'objectif. Et là, je rajoute un mot. Une vérité est forcément objective. Ce n'est pas ma vérité, sinon ce n'est pas la vérité. C'est ma vérité. Donc, ce n'est pas la vérité. Là, on parle de quelque chose de émet. Donc, je dois chercher là où se trouve l'émet. Et pas ce que je vais dire sur l'émet ou je vais dire c'est comme ça que ça s'est passé hier soir. Non, il faut que ça soit par les critères de la vérité aussi. Et là, on cherche, comme Félicien a demandé. Alors, c'est quoi, quel rapport ? Il faut justement chercher la émouna, là où il y a le émet, la vérité, la plus vérité de toutes les vérités. Et donc, c'est très difficile.
Excusez-moi, est-ce qu'on peut faire le lien avec justement le souvenir et la mémoire, donc l'eau qui garde vraiment, qui est à l'origine?
Je n'ai pas compris.
C'est-à-dire que Zara, ça vient, bon, le souvenir vient du mot Zara, de la racine Zara. Donc, est-ce que le souvenir étant la mémoire, on dit que c'est l'eau et signifie la mémoire? Donc, est-ce que, et on retourne à l'origine, donc à la certitude.
Le seul truc que je peux vous dire à ce moment de l'étude, c'est que Zahar, ça veut dire souvenir. Zecher, c'est le souvenir. Zahar, c'est masculin. Et il y a un rapport qu'on va voir très, 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 très bientôt. Ça va? Maintenant, peut-être on va pouvoir lire ce qu'on va vous dire, mais pour l'instant, je vais vous rajouter un élément. Donc, on y va, on résume. Léhamin, c'est un actif. On a découvert que le shoresh, la racine du mot Léhamin, c'est Aleph Memnoun. Or, Aleph Memnoun, ça a donné le mot Amen, qui veut dire vraie vérité. Par conséquent, Léhamin, les élèves me disent, alors j'ai compris ce que c'est Léhamin, c'est faire de la vérité. Bon, vous pouvez écrire ça, mais c'est faux. Vous ne pouvez pas écrire ça, faire de la vérité, faire de la Aleph Memnoun. Mais vous êtes déjà dans le kivoun, vous êtes déjà dans la direction. C'est que Léhamin, ça veut dire réaliser une vérité. Waouh! Réaliser quelque chose de amen. Réaliser une vérité, ça peut être. Ça va? Maintenant, le Kuzari, qu'est-ce qu'il dit? Anachnu ma'aminim. Nous avons la Emouna. Be'eloke Abraham, Israël, Yaakov, qui nous a fait sortir d'Égypte avec les trucs, avec les machins, etc. Le roi des Khazars, il va lui poser la question. Il va lui dire, mais pourquoi tu ne m'as pas répondu ce que les autres disent? Je crois au Dieu créateur qui a créé le monde, Dieu. C'est-à-dire, vous comprenez cette question. Pourquoi tu parles d'une histoire de famille, un Dieu qui s'est dévoilé à ton grand-père Abraham et ton grand-père Isaac et ton grand-père Jacob, qui nous a fait sortir d'Égypte, au lieu de parler d'un Dieu universel? Maintenant, regardez la contradiction. Le musulman et le chrétien, il dit « je crois en un Dieu universel », alors que le juif, il dit « anachnu, nous, universels, on croit en un Dieu ». Vous sentez la dissonance? Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe de quelque chose de très fort. Tous les Shabbats, on fait le
kiddush. Dans la traduction, ce n'est pas marqué Anachno, c'est marqué Anima Amin. C'est de Charles Toiti.
Mais c'est ouais. Alors, peut-être il y a plusieurs traductions, je vais vous dire tout de suite. J'ai plusieurs textes ici de la traduction. Ici aussi, il y a marqué Anima Amin. Il y a une autre traduction ici. Il y a marqué Anima Amin. Mais celui qui a traduit Anachno Amin, c'est Maminim, c'est intéressant parce qu'il y a du vrai dans ça. C'est pas le shoresh de truc, mais notre émouna, elle est au niveau du klal, au niveau du collectif. Maintenant, regardez. Le kiddush du vendredi soir. On commence par dire Vaïchulu Hashamayim, Baaretz, etc. Vechol Sevaam, Savre Maranan, Mourata Hashem, Boré Peragefet. Maintenant, on cite deux événements terribles. Terribles dans le sens positif du terme. Grand. Il y a deux événements, regardez bien. Maase Vereshit et Yetziat Mitzrayim. On cite deux événements. Un événement qui est l'acte de la création, Maase Vereshit, l'œuvre de la création, des six jours de la création et le Shabbat ou Hachem, Shabbat, il a chômé. Et Yetziat Mitzrayim est la sortie d'Égypte. Maintenant, qui peut me dire les mots qu'on met avant Maase Bereshit et avant Yetziat Mitzrayim? Allez, on y va.
Dans le Kiddush. Attends, la question là, j'ai pas compris.
Dans le Kiddush du vendredi soir, après avoir dit Brachat Hashem Elokim Melech Olam, Borei Pirag Efen, on commence par la bracha sur le Kadesh HaShabbat. Et on cite Maase Bereshit comme l'œuvre de la création, on parle de l'œuvre de la création du monde, et on parle de la sortie d'Égypte. Mais il y a un mot qu'on cite
Zecher. Avant.
Zecher. Et un mot. Zecher Maase Bereshit.
Et Zecher Yetziat Mitzrayim.
Et Zecher Yetziat Mitzrayim. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est ce qu'on dit.
Oui, c'est vrai. Allez, d'autres personnes?
Moi, je dis c'est faux.
C'est faux parce que tu m'entends parler, tu entends ma voix, tu reconnais la voix. Non, d'autres personnes.
Je sais que c'est Zecher Yetziat Mitzrayim, mais je vérifie pour moi, c'est le Réchi.
Je regarde. Zecher.
Bon. Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est vrai. Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est vrai. Mais pour moi, c'est le Réchi.
Il a coupé le sifflet, alors on ne peut pas répondre.
Les Maase Bereshit. J'ai compris. Zikaron et Maase Bereshit. Maintenant, Zecher Zikaron. C'est quoi la différence? Zecher et Zikaron. C'est-à-dire? Maintenant, cours de Lashon HaKodesh. C'est un peu difficile, mais c'est simple. En français, quand on dit un chat, c'est un chat. Mais un petit chat, on appelle ça un chaton. Qu'est-ce qu'on rajoute?
Un suffixe.
Un suffixe, Nahan. Le on.
Ah ben, tu vois.
Des fois, on arrive mal à le prononcer, à dire éléphant, éléphanton, c'est dire, alors éléphanto, etc., etc. Mais on ajoute on. Mais en ivrie, c'est la même chose.
On ajoute un check.
En ivrie, qu'est-ce qu'on dit? Pile, c'est un éléphant. Pylone, c'est un petit éléphant, c'est un éléphanto. Maintenant, faites très attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Quand un mot en hébreu se finit par on, soit c'est la définition même du mot, mazon par exemple, mazon c'est mazon, c'est la nourriture par excellence. Ou soit c'est la chose petit.
Katan.
Katan. Nahon?
Mehat. Mehat,
Nahon. Maintenant regardez, il y a le je ne vais pas citer le rap parce que je vais m'échaîner. Il y a un rave qui explique qu'il y a une différence entre Zecher et Zikaron. Zecher, c'est the souvenir, le souvenir.
C'est plutôt la mémoire,
le souvenir, sans faire de différence pour l'instant. La mémoire, le souvenir, ça c'est Zecher. Zikaron, c'est quoi? C'est le petit souvenir. Le petit souvenir. Mais attendez, Ribono Shel Olam. J'aurais dit l'inverse. Si tu veux un grand souvenir de quelque chose d'énorme, c'est Maase Bereshit, c'est l'œuvre de la création. Il n'y avait rien, Hachem y crée, c'est Zecher, les Maase Bereshit. Non, on te dit Zikaron, petit souvenir, petite mémoire. Pourquoi? À vous de répondre.
Mais parce que le peuple d'Israël, c'est la sortie d'Égypte.
Non.
C'est vieux, c'est ancien.
Yafé. Mais c'est plus qu'ancien, c'est quoi?
C'est antidiluvien.
C'est antidiluvien. Mais bien plus qu'antidiluvien. Le début, c'est en 1656. C'était 1656 ans après, même peut-être des milliards d'années après.
C'est un témoignage.
Non. Yafé. Pourquoi c'est... Non, alors c'est quoi le problème?
Eh bien, on n'était pas là.
On n'était pas là, c'est ça. On n'était pas là. La chose qu'on peut témoigner...
Quand on était présent.
Exactement, c'est la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim. Là, notre peuple, il peut témoigner de ça. Notre peuple est porteur de ça. Il a vécu. Il l'a vécu. Et là, désolé de vous dire, de parler de ça, mais comprenez, il va y avoir des personnes qui vont parler sur un événement et des personnes qui vont vivre l'événement. Le chaver, le rabbin, il parle d'un événement vécu. Pas de spéculation du sérel, de l'intellect. Si tu cherches les spéculations du sérel, si tu cherches les là, alors tu vas arriver à la conclusion qu'il ne peut pas avoir de monde de créature sans créateur. Mais ça, c'est le CRL qui dit ça. T'étais, toi, là-bas? Non, j'étais pas. Mais regarde, le monde, il est tellement bien organisé, il est tellement bien formé, tout est calculé, forcément qu'il y a un organisateur de cet organe qui est le monde. Réponse, oui, mais c'est toi qui arrives à la conclusion. Ça, c'est pas de la Emouna. C'est dur, hein? La Emouna, comme je vous ai dit, c'est la vérité, c'est l'expérience réelle de la chose. Et par conséquent, Yetziat Mitzrayim, oui, ça a été vécu par le peuple d'Israël. Maintenant, je mets entre parenthèses, oui, mais moi, David Partout, je n'étais pas à la sortie d'Égypte. Ça s'est passé en 2048, en 2448. Moi, je suis né en, je ne sais plus, on est en, ah oui, 5700. 5735.
Il y a un problème.
Il y a un problème. Moi, je n'étais pas là-bas. Ça, c'est une question qu'on est obligé de répondre. Mais déjà, que dire que le Am Israël qui est sorti d'Égypte, il a la Emouna de la sortie d'Égypte. Vous, vous tous, quoi, ceux qui sont en Eretz Israël aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas en Eretz Israël, c'est le Meshané. On vit, on a la Emouna des paroles de Ishayahu, d'Isaïe. Qui dit que de nouveau, il y aura Hatan de Kala, il y aura un des Hatanim de Kala en Eretz Israël. Kol Sasson ve Kol Simcha, de nouveau, on entendra les sons de joie et d'allégresse qui vont chanter pour le mariage, qui vont se passer de nouveau en Eretz Israël. Nous, on a la Emouna, la Ron. On le vit, ça. C'est quelque chose qui est vécu. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a dit, qu'il faut prouver au niveau du Sérel. Par contre, il y a 3500 ans, avoir cette certitude que ça se passe, où il y a 2500 ans, qu'on quitte après la destruction du premier temple, où tout est détruit, tout est saccagé, on n'a plus de nation, on n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus de Shrina, de présence divine, et crier « Kol Sasson et Kol Simra !» Alors il fallait avoir une émouna de prophète. Mais aujourd'hui, c'est facile d'avoir la émouna que que la terre elle donne perot ba'inyafa, elle donne de nouveau ses fruits d'une manière abondante. On est cette semaine à Toubishvat, Bezrat Hashem. Mais à l'époque de Rachid, de parler de ça, c'était, il fallait être prophète. Vivre ça, il fallait être prophète. Donc quand on parle de Emouna, on parle pour l'instant de quelque chose de véhiculé. Et je vous donne une définition. Les Hamin, sans donner véritablement la traduction, mais c'est vivre le sujet auquel on a, dans lequel on a la Emouna. Vivre le sujet dans lequel nous avons la Emouna. Si je dis Ani Ma'amin Badavarazé, j'ai la Emouna dans cette chose, c'est que je vis la chose. Par exemple, c'est fort, on dit des phrases qui sont marquées dans le Tanakh. Ani Ma'amin Be Godel Shel Am Israël. J'ai la Emouna dans la grandeur du peuple d'Israël. Aujourd'hui, ben, tout le monde peut dire une chose comme ça. Tout le monde voit la grandeur, le miracle du peuple d'Israël sur sa terre avec un milliard d'ennemis autour de nous et Am Israël Chai. Donc là, on parle d'Emouna, quelque chose qui est vécu. on peut dire, pour ceux qui sont en Eretz Israël, Ani Ma'amin Beshomer Israël. Je vis le protecteur d'Israël. Moi, j'ai une de la famille en France, elle me dit, quand vous aurez des problèmes avec l'Iran, tu auras où venir te cacher en France. Rosh Shalom. Qui pense à l'Iran quand tu es en France, quand tu es en Israël? Tu sens cette protection-là? Et tous nos soldats, on finit sur ça, Ma'aminim Beshomer Israël. Tous nos soldats, ils ont la Emouna dans le protecteur d'Israël. Sinon, ils n'iraient pas au combat. Parce qu'au niveau du Sechel, il n'y a aucune chance de réussir. Ils sont 1 milliard, on est 5 millions, 6 millions et demi. On n'a aucune chance de réussir. Eux, ils vivent Netzach Israël, le plus loin. Et ils vivent l'éternité d'Israël. Bezrat Hashem, Shavua Tov, Shilachem, Toubi, Shvat Sameach. Et que Kadosh Baruch Hu dit, Yomar, Dai, Letzarotenu, Veyavi, Refoua, La Olam, Mekol, Acholim, Bezrat Hashem.